Une récollection de l'Alliance des Cœurs Unis s'est déroulée du 10 au 13 juin à Bayonne. Monseigneur Marcaillet a accueilli des autorités ecclésiales maronites pour célébrer l'unité de cœur des églises d'Orient et d'Occident par la consécration à Jésus par Marie. Était notamment présent l'archevêque émérite de Tyr au Liban, Monseigneur Choukrala Nabil El Hadj. Nous vous proposons d'entendre l'intervention de notre évêque Monseigneur Marcaillet en la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne, en la solennité du Sacré-Cœur, le vendredi 11 juin. Nous entendrons aussi prochainement l'intervention de Mgr Choukrala Nabil El Hadj, archevêque émérite de Tyr au Liban. Voici pour aujourd'hui l'intervention de notre évêque, Mgr Marcaillet.
Voilà, d'abord, je me réjouis de votre présence ici à Bayonne pour cette récollection de l'Alliance des Cœurs Unis, pardon. Oui, parce que nous avons ici le séminaire diocésain que nous avons mis sous le patronage des Cœurs Unis de Jésus et de Marie, mais il s'appelle le séminaire des Cinq Cœurs de Jésus et de Marie. Mais c'est pareil, hein. Sauf que là, on dit qu'ils sont unis. Très heureux de cette belle célébration de ce matin, la ferveur. Voilà, je crois que ce matin, c'est vrai, la ferveur, je crois aussi l'unité des cœurs, de vos cœurs, avec les Cœurs Unis de Jésus et de Marie, était palpable. Et c'est toujours très émouvant de voir ceux qui approchent et qui demandent, après avoir réfléchi, parfois un peu longtemps, mais c'est bien, après s'y être préparé, et puis tout simplement être venu comme des enfants pour demander de se mettre sous la protection de Jésus et de Marie en recevant la livrée de Jésus et de Marie qui est ce scapulaire. Signe d'une consécration, qui est la consécration de votre baptême. La première grande consécration que nous avons reçue, c'est celle de notre baptême. Il n'y en a pas de plus grande. Même la consécration sacerdotale ou épiscopale n'est pas plus grande que la consécration du baptême. Le prêtre, l'évêque sont consacrés pour être au service de la consécration dans laquelle vous avez été établis et nous avec vous, dans le baptême, pour être devenus des enfants de Dieu, pour que notre cœur devienne la demeure de la Sainte Trinité. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand ? Oui, c'est une belle dignité à laquelle que personne ne mérite, à laquelle personne n'a droit, que d'être choisi par Dieu, mis à part, pour devenir prêtre ou évêque, configuré par la grâce du sacrement de l'ordre au Christ, tête, pasteur, serviteur et époux de l'Église. Et c'est une consécration de service. Un grand théologien que j'aime bien, qui est le cardinal Charles Journet, qui a beaucoup médité, réfléchi, écrit sur le mystère de l'Église dans un grand livre à 4 tomes qui s'appelle « L'Église du Verbe incarné », dans lequel il dit que les hiérarchies de l'ordre, les diacres, les prêtres, les évêques, sont au service des hiérarchies de sainteté. Car nous ne sommes pas prêtres pour être des saints, même s'il faut d'autant plus que nous soyons des saints, pour être canaux de la grâce. Mais nous sommes baptisés pour être des saints. L'Église n'est pas une pyramide comme on l'entend habituellement et qui fait que beaucoup crient au cléricalisme pour nous remplir de confusion sur cette belle dignité du sacerdoce instituée par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la pyramide de l'Église, elle est inversée. Le sommet de la pyramide, c'est-à-dire la hiérarchie, comme on dit, qui ne signifie pas pouvoir sacré, mais origine sacrée du pouvoir qui est conféré aux prêtres et aux évêques pour servir le peuple de Dieu, elle est en bas. Mais elle soutient le peuple de Dieu qui est la hiérarchie de la sainteté. C'est magnifique. Nous sommes en bas, nous, de la pyramide, comme les fondements. Oui, comme les fondements, parce que Jésus a fondé son Église sur des pierres de fondation que sont les 12 apôtres et les successeurs des apôtres et les prêtres à la manière des apôtres, mais pour soutenir le peuple de Dieu dans la consécration du baptême et lui permettre d'atteindre la sainteté qui est déjà au ciel. La base de la pyramide, elle est vers le ciel. On n'a pas toujours cette idée, n'est-ce pas ? Mais elle est très importante pour nous. Et moi, ce que je voudrais essayer de vous dire, si j'y arrive, hein, parce que je n'ai pas franchement préparé, je peux vous dire, parce que je suis un peu pris en ce moment, mais je voudrais vous parler de... On l'a dit d'ailleurs dans la prière de bénédiction, là, il me semble. Qu'ils imitent son exemple, ou leur exemple, quand il s'agit des saints, pour suivre le Christ et parvenir à la plénitude de l'homme parfait. Qui est l'homme parfait ? C'est le Christ. Mais nous sommes tous appelés par notre baptême à atteindre la plénitude de l'homme parfait. Il y a un thème qui me traverse beaucoup en ce moment, depuis quelques semaines, très particulièrement, c'est justement ce thème du chrétien adulte dans la foi. Ce qui me suggère cette réflexion, c'est la grâce que j'ai en ce moment, depuis le début du mois de mai jusqu'au début du mois de juillet, tous les samedis, tous les dimanches, quelquefois 4 célébrations par week-end, et on ne s'en lasse pas, moi et mes vicaires, parce que je ne peux pas assurer ce service tout seul, c'est la grâce de pouvoir confirmer, donner le sacrement de la confirmation à des enfants, à des jeunes, à des adultes. Ici, dans cette cathédrale, cette année, j'ai confirmé 45 adultes. D'autres sont confirmés dans leur paroisse avec leurs enfants parce qu'ils sont parents de ces enfants et veulent être confirmés avec leurs enfants. Il y a une petite chose qu'on a faite dans le diocèse depuis quelques temps. J'ai invité les prêtres, les catéchistes à réfléchir, les enseignants aussi, les établissements seulement catholiques, à réfléchir sur le sens ou l'ordre des sacrements de l'initiation chrétienne. Et j'ai demandé qu'on réfléchisse à abaisser l'âge de la confirmation. Personnellement, moi, j'ai été confirmé à 10 ans. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous qui ont des cheveux blancs comme moi ont été confirmés enfants, même si l'habitude s'est faite en France petit à petit, et je crois de manière qui n'est pas traditionnelle par rapport à la grande tradition de l'Église, de confirmer les jeunes à l'âge de l'adolescence, l'âge qui est vraiment le moins adapté à faire une vraie démarche spirituelle, même si, grâce à Dieu, il y a encore des familles où les enfants, même à l'adolescence, traversent leur crise de manière sereine et gardent un cœur orienté vers le Seigneur et qui, dans leurs lettres de demande, disent des choses très belles. Mais résultat des courses, la plupart de ceux qui se présentent au mariage, à l'Église, de moins en moins nombreux sans doute, mais il y en a encore, la plupart ne sont pas confirmés. Ils n'ont pas reçu ce sacrement de l'initiation chrétienne qui n'est pas facultatif, mais qui est nécessaire pour devenir un chrétien adulte dans la foi et pour prétendre un jour atteindre l'homme parfait qu'est le Christ auquel nous sommes configurés précisément par la grâce du baptême. Alors il y a eu un peu de réticence, un peu de frein parfois, et puis à ma grande surprise, je vois que de plus en plus, Les paroisses s'y mettent et présentent les enfants à partir du CM1 à la confirmation. Ce qui permet généralement de rétablir l'ordre traditionnel. Je veux dire qu'il n'est pas anodin, même s'il est possible, de recevoir les sacrements d'initiation chrétienne dans le désordre, comme au tiercé. Mais ce n'est pas anodin, cet ordre. Vous allez voir, comprendre tout de suite pourquoi. Sans doute, Saint Pie X a bien fait, par l'assistance spéciale de l'Esprit-Saint, dont le successeur de Pierre jouit au sein de l'Église, de favoriser la première communion précoce des enfants, en disant, dès lors qu'un enfant qui est élevé dans une famille chrétienne, qui est tombé dedans quand il était petit, tout transpire la foi dans l'éducation qu'il a reçue depuis son plus bas âge, eh bien il ne faut pas le faire attendre trop longtemps pour accéder à cet aliment spirituel qu'est l'Eucharistie, qui nourrit, entretient, fait grandir en nous la sainteté du baptême. Et c'est ainsi qu'on peut donner la communion à un enfant de 6 ans, de 7 ans, qui est capable de dire « Jésus est dans l'hostie ». Et il le dira d'une manière beaucoup plus vraie, sans doute, et spontanée parfois que nous-mêmes, qui sommes souvent traversés par le doute, malgré notre maturité spirituelle. Auquel cas, la confirmation dans l'Église latine, parce que ça n'est pas la même chose dans l'Église orientale, dont Monseigneur Choukrala. Dans la plupart des cas, comme vous le savez, les enfants qui sont encore inscrits au catéchisme ou qui rentrent à l'école catholique n'ont jamais entendu parler de Jésus dans leur famille, ou si peu, n'ont pas été catéchisés quand ils arrivent en première année de catéchisme, c'est-à-dire en CE2, CE1, CE2. Donc pourquoi leur faire faire une première communion en CM1, qui sera souvent la dernière, quand on sait que l'Eucharistie, c'est le sommet et la source de la vie chrétienne, le sommet de l'initiation chrétienne, qui suppose une capacité, même matérielle, à avoir une vie eucharistique. Voilà pourquoi je préconise dans le diocèse depuis quelque temps qu'on commence par confirmer les enfants après le baptême qu'ils ont généralement encore quand même reçu tout petit, mais un certain nombre d'enfants maintenant le demandent à l'âge scolaire, dans nos écoles en particulier. Et puis après, ils feront leur première communion. Et ce sera dans l'ordre. Ce sacrement de la confirmation, il est tellement fondamental pour la vie du chrétien. Je suppose que vous êtes tous confirmés ici. Mais si vous ne l'êtes pas, ce n'est pas infamant. Précipitez-vous, allez voir le curé de votre paroisse et préparez-vous-y. Il y a des préparations rapides. Vous n'aurez pas besoin d'attendre beaucoup, vous qui faites partie de l'alliance des 5 cœurs de Jésus et de Marie. Des cœurs unis, pardon. Comme son nom l'indique, comme je le dis toujours aux enfants, mais tant pis, je vais le redire pour ceux qui ont déjà entendu des célébrations de la confirmation que j'ai présidées ces derniers temps. La confirmation, c'est ce qui vient confirmer par le don de l'Esprit-Saint le don que nous avons reçu au baptême. Le confirmer, c'est-à-dire l'affermir. Comme disent les enfants, je voudrais être confirmé pour grandir dans la foi, pour devenir grand. Ils ont tout compris. Je vous ferai remarquer même que je demande à tous les enfants d'écrire une lettre pour demander à l'évêque la confirmation. Eh bien, des enfants de CM1 savent parfois mieux dire les choses spirituelles, même si c'est avec des mots d'enfant, que des adolescents de 14 ans à qui les parents ont dit « faut que tu sois confirmé ». Alors je dis aux enfants et je dis aux parents, vous demandez à vos enfants d'être confirmés ? Oui, parce qu'il faut qu'ils fassent comme on a fait. J'ai été confirmé, tu seras confirmé. Et si votre enfant vous dit, et qu'est-ce que ça a changé chez toi ? J'ai un enfant comme ça qui m'écrivait dans une lettre, que j'ai confirmée je crois samedi dernier ou l'autre samedi, qu'importe, et qui disait, je veux être confirmé parce que j'ai constaté que la foi transforme des vies. Je me suis dit, cet enfant, il a la grâce d'avoir peut-être des parents ou des chrétiens autour de lui qui sont transformés par leur foi. C'est magnifique. Alors que vous avez l'autre enfant qui vous écrit, moi je demande la confirmation, mais je ne sais pas trop ce que ça va changer dans ma vie. C'est pas grave. Je ne suis pas sûr que les apôtres, lorsque Jésus, au jour de l'ascension, leur a dit « Vous allez recevoir une force venue d'en haut. L'Esprit Saint viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toutes les Judées, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » les pêcheurs de Galilée, qui étaient partis seulement de leur Galilée natale et de leur rivage du lac de Tibériade, petite mer fermée au nord de la Galilée, seulement chaque année pour aller à Jérusalem, pas très loin, il n'y a pas besoin d'un avion pour y aller. Pour la Pâque des Juifs, jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ont dû se demander ce que ça allait vraiment changer dans leur vie. Ils ont peut-être dû être un peu sceptiques et s'interroger. D'ailleurs, on les voit très bien dans le Cénacle, la chambre haute, où ils avaient l'habitude de se rassembler. Il n'y avait pas que les apôtres, il y avait les disciples de la première heure, hommes et femmes, dont Marie, la seule qui est nommée parmi les disciples. Quand les apôtres, eux, sont tous nommés, sont les listes que nous connaissons bien, appelées par Jésus dans l'Évangile. Ben, ils étaient là en train de se demander ce qui allait se passer. Ils ne savaient pas très bien ce que ça allait changer dans leur vie. Pourtant, ils avaient quand même la Vierge Marie. Et ils pouvaient dire quand même, au bout d'un certain temps, à force de la contempler, de prier avec elle, et elle priait d'une manière tellement intense, parce que toute l'Église était réfugiée en Marie, qui est vraiment la première Église, n'est-ce pas ? Au pied de la croix, et dans le Cénacle, ils devaient se dire, quand même, la foi, ça transforme une vie. Et leur cœur se dilatait, jusqu'au jour où l'Esprit Saint a fondu sur eux, sans prévenir, même s'ils l'attendaient quand même, puisque Jésus leur avait promis. Et ça a changé leur vie. Ils ont été confirmés dans leur foi. Ils ont été confirmés dans leur mission. Allez, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné, faute d'avoir cru à la parole qui pourtant lui aura été annoncée. Voyez. Et ça a changé leur vie. Le sacrement de la confirmation, c'est le sacrement qui nous rend, comme vous savez bien dans votre catéchisme, que vous n'avez pas oublié et que vous approfondissez sans cesse, je l'espère, avec le catéchisme de l'Église catholique, qui est certainement votre livre de chevet, avec la Bible. Mais c'est important d'avoir un catéchisme de l'Église catholique et de l'ouvrir souvent. C'est le sacrement qui nous rend adultes dans la foi. Et qu'est-ce que c'est qu'un adulte ? Plus difficile aujourd'hui, n'est-ce pas, de savoir ce que c'est qu'un adulte. Il paraît que l'adolescence commence très tôt et se termine de plus en plus tard. Cette période de transition un peu incertaine entre l'enfance où on voudrait bien rester et puis la vie adulte qui n'est pas enviable. Parce que la vie, comme dit Job, est une corvée sur la terre. Il faut assumer des responsabilités, répondre de ses actes. Personne ne veut plus répondre de ses actes, à commencer par le gouvernement. Principe de précaution oblige. C'est pas expédient de devenir adulte. Mais un adulte dans la foi, c'est quelqu'un qui est ferme dans la foi, qui reste debout au pied de la croix, comme la Vierge Marie, qui ne se décourage pas devant les obstacles, qui garde confiance en Dieu, même lorsque Dieu paraît tellement silencieux et s'être éloigné de moi. Un adulte dans la foi, c'est quelqu'un qui est capable de transmettre ce qu'il a reçu à la naissance, comme un adulte du point de vue de la nature humaine, qui devient adulte quand il est capable de transmettre la vie qu'il a reçue à la naissance. Et il faut certainement une certaine maturité au plan humain, physico-psychique, pour être capable de transmettre la vie et de l'accompagner et de l'éduquer pour qu'elle devienne elle-même adulte. Mais un adulte dans la foi, c'est quelqu'un qui est capable de transmettre ce qu'il a reçu à son baptême. Et qu'est-ce que nous avons reçu au baptême ? La foi. Que demandez-vous à l'Église de Dieu ? C'est l'interrogation du ministre de l'Église aux parents qui présentent leur enfant au baptême. Et qu'est-ce que nous répondons ? Une protection. Vous savez, comme quand on prépare les parents au baptême, on ne veut pas prendre le rituel. C'est idiot, parce que ce rituel, il a traversé les siècles. Et dans ce rituel, il y a des paroles très profondes qui disent exactement de quoi il s'agit. On ne peut pas l'inventer, puisque c'est Dieu qui nous l'a révélé. Alors, la protection, pour faire comme les grands-parents, non. Que demandez-vous à l'Église de Dieu ? La foi. Et que vous procure la foi ? La vie éternelle. Et toute notre vie se situe entre la foi, qui est le don initial de notre vie baptismale, et la vie éternelle, qui en est le couronnement et l'accomplissement. Et entre-temps, il faut grandir. Il faut grandir. Parce qu'on ne peut pas rester éternellement des enfants. Mais nous sommes appelés à devenir des adultes dans la foi, qui demeurons fermes dans les épreuves et les difficultés, et qui devenons capables de transmettre aux autres ce que nous avons reçu au jour du baptême, c'est-à-dire la foi. Mais si pour la vie naturelle, on devient adulte à travers un processus de croissance naturelle qu'on ne peut pas arrêter, moyennant quand même une éducation qui accompagne ce processus de croissance. Pour ce qui est de la vie divine, on devient adulte dans la foi dès lors que l'on reçoit ce don de l'Esprit Saint dans le sacrement de la confirmation qui fait grandir d'un coup ce que nous avons reçu au jour de notre baptême. On recherche dans l'Église aujourd'hui des adultes dans la foi. Les adultes dans la foi, ce ne sont pas ceux à qui on a dit « Ah ben tiens, toi, tu seras responsable de ceci et de cela. Tu auras une fonction dans la paroisse. Tu auras un pouvoir. » Quand on réduit l'adulte dans la foi aux laïcs qui participent à la vie de l'Église, c'est bien. C'est même très bien, parce que le baptême y conduit aussi. Mais la première vocation du laïc, ce n'est pas d'abord une tâche intra-ecclésiale. C'est d'animer chrétiennement les réalités temporelles dans lesquelles, par leurs conditions séculières, les laïcs sont engagés, la famille, le travail, le groupe de loisirs, la culture, la société, la politique, à la lumière de la foi et de l'enseignement de l'Église, pour animer chrétiennement toutes ces réalités, pour que peu à peu, elles soient un tremplin pour la vie éternelle. Un tremplin pour la vie éternelle. On a réduit bien souvent les chrétiens laïcs adultes dans la foi à des fonctions exercées dans l'Église, à des pouvoirs qui engendrent comme des tensions et des revendications, des tensions entre les laïcs et les prêtres, entre les laïcs eux-mêmes. Et on a souvent engendré une sorte de cléricalisme des laïcs qui vaut bien le cléricalisme des clercs quand eux-mêmes ne se sont pas laïcisés ou sécularisés. Et on est dans une confusion dans laquelle on ne sait plus bien ni s'il y a des hommes et des femmes, ni s'il y a des prêtres, des laïcs et des consacrés. Un adulte dans la foi, c'est quelqu'un qui participe pleinement à son identité de baptisé. Et votre identité de baptisé, c'est de participer par la grâce de votre baptême au sacerdoce du Christ. On appelle même cela le sacerdoce commun des fidèles, qui est distinct non seulement de degré mais d'essence, sans doute, du sacerdoce ministériel des prêtres. Mais ils sont ordonnés l'un à l'autre, comme j'essayais de vous le dire au tout début de cet entretien. Le sacerdoce ministériel des prêtres est au service du sacerdoce commun des fidèles. Nous sommes là pour aider les fidèles laïcs à devenir pleinement prêtres dans la grâce de leur baptême, confirmés par le don de l'Esprit Saint au jour de leur confirmation. Quand je suis prêtre, curé de paroisse, vous êtes curé de paroisse, Ce qui m'importe, c'est pas d'abord d'avoir des collaborateurs qui assument des fonctions, même si c'est aussi important, ça. Mais c'est d'abord de se dire où en est-il du déploiement de son sacerdoce commun, de sa participation par la grâce de son baptême confirmé par l'Esprit Saint de la confirmation au sacerdoce du Christ pour le salut du genre humain. Où en est-il de sa sanctification dans la ligne de son baptême? Où en est-il de sa mission de transmettre la foi à ses enfants, à ses collègues de bureau, à ses partenaires de tennis ou de foot, qu'importe encore? Est-il un signe efficace de cette sainteté à laquelle il participe et qu'il est appelé à communiquer par son baptême aux autres qu'il côtoie? C'est cela qui semble être le grand défi aujourd'hui. Et moi, je me dis aujourd'hui que l'une des plus grandes préoccupations de mon ministère d'évêque, après, c'est vrai, la relève sacerdotale, qui manque cruellement, après la nécessité d'annoncer l'Évangile à tous, ceux qui se sont éloignés, rendre accessible l'Évangile du Christ à tous ceux qui sont loin, c'est-à-dire l'engagement dans une nouvelle évangélisation, une proclamation par des témoins crédibles qui ont vraiment rencontré Jésus dans leur vie, de cet évangile, de ce kérigme, le Christ est mort et ressuscité pour nous sauver, nous en sommes témoins, il a changé ma vie, il peut changer la tienne. La troisième préoccupation, c'est la formation des fidèles pour qu'ils deviennent d'authentiques adultes dans la foi, conscients qu'ils ne feront pas grandir, ils ne permettront pas à ce sacerdoce commun, sacerdoce baptismal, de se déployer complètement avec tous les charismes dont Jésus peut orner son Église sans une profonde vie de prière, une méditation quotidienne de la parole de Dieu, une participation fréquente au sacrement de l'Église, à commencer par l'Eucharistie et le sacrement de pénitence et de réconciliation qui sont inséparables. À travers un accompagnement spirituel, c'est comme cela qu'on devient des adultes dans la foi. Ma première préoccupation comme pasteur, c'est d'abord cela, les fidèles dont j'ai la charge. Est-ce qu'ils se sanctifient? Est-ce qu'ils prient? Est-ce qu'ils se confessent? Est-ce qu'ils participent vraiment à l'Eucharistie d'une manière active, consciente et fructueuse? Est-ce qu'ils construisent des liens de communion au sein de la communauté chrétienne? Est-ce qu'ils deviennent ainsi signes crédibles de l'Évangile pour ceux qui sont autour d'eux? Après, je pourrais discerner les charismes et voir quel collaborateur je pourrais prendre, comme Paul qui trouvait aussi dans les fidèles laïcs des collaborateurs pour l'annonce de l'Évangile, comme Priscille et Aquila. Bien sûr, mais c'est d'abord cela qui est important. Être adulte dans la foi, c'est vivre au niveau profond de la grâce que l'on a reçue par le baptême et qui a été confirmée par l'Eucharistie et qui grandit dans une vie, par la confirmation, pardon, et qui grandit dans une vie eucharistique qui devient vraiment le sommet et la source de toute vie chrétienne. Au fond, participer au sacerdoce du Christ, qu'est-ce à dire? Vous savez, Jésus a assumé une réalité du sacerdoce qui est commune à toutes les religions, mais qui vient de Dieu. Il l'a assumé de manière parfaite, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5. Tout grand prêtre, en effet, pris d'entre les hommes, est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu, afin d'offrir dons et sacrifices pour les péchés. Voyez, le sacerdoce, sa nature et son identité, c'est d'être dans cette fonction de médiation entre Dieu et les hommes, ce que Jésus a accompli de manière parfaite. Dans un double mouvement, un mouvement ascendant qui est de présenter les prières et les offrandes du peuple, des hommes, à Dieu, et dans un mouvement descendant qui est de donner les choses sacrées, les choses saintes de la part de Dieu aux hommes. C'est magnifique. Jésus a accompli parfaitement ce mouvement ascendant de son sacerdoce en offrant sa personne tout entière à Dieu en sacrifice d'expiation pour les péchés, comme je le disais ce matin dans l'homélie. Et dans son mouvement descendant, il a communiqué ses dons aux hommes, l'Esprit Saint, tous les dons et toutes les bénédictions, toutes les grâces en plénitude qu'il confère aux hommes par le ministère des prêtres, la parole et les sacrements, qui sont ces choses saintes que le prêtre est appelé à communiquer aux hommes. Et bien, par analogie, vous participez déjà par votre baptême au sacerdoce du Christ, d'une manière sans doute différente, non seulement de degré mais d'essence, d'accord, mais d'une manière authentique. Un chrétien adulte dans sa foi, qui est conscient de participer au sacerdoce du Christ, est quelqu'un qui s'offre à Dieu par tout lui-même. Il y a des textes magnifiques dans la constitution Lumen Gentium du Concile Vatican II sur le mystère de l'Église qui le disent très bien. Je vous lis tout simplement le numéro 10 de Lumen Gentium, la grande constitution sur l'Église du Concile Vatican II. Le Christ Seigneur, grand prêtre, pris d'entre les hommes, ce que je viens de dire, a fait du peuple nouveau un royaume des prêtres pour son Dieu et Père. Les baptisés, en effet, par la régénération et l'onction du Saint-Esprit, sont consacrés pour être une demeure spirituelle et un sacerdoce saint, pour offrir, écoutez bien ça, le mouvement ascendant, pour offrir par toutes les activités du chrétien autant de sacrifices spirituels et proclamer le mouvement descendant, les merveilles de celui qui des ténèbres les a appelés à son admirable lumière. C'est pourquoi tous les disciples du Christ, persévérant dans la prière et la louange de Dieu, doivent s'offrir en victime vivante, sainte, agréable à Dieu, porter témoignage du Christ sur toute la surface de la terre et rendre raison sur toute requête de l'espérance qui est en eux d'une vie éternelle. C'est magnifique. Mais c'est cela le cœur de votre vie chrétienne. Rien d'autre. Dites-moi autre chose qui pourrait être en concurrence avec ce qui vous est dit là d'essentiel. Un chrétien adulte dans la foi, c'est quelqu'un qui s'offre tout entier, selon ce que dit saint Paul aux Romains, au chapitre 12, versets 1 et 2. Vous connaissez ce passage que je viens de citer déjà. « Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. » C'est exactement à cela que conduit votre appartenance à l'Alliance des Cœurs Unis. C'est le sens même de votre consécration que vous avez renouvelée ce matin ou que vous avez faite pour la première fois, en recevant le scapulaire des cœurs unis de Jésus et de Marie. Et ça n'est pas sans combat spirituel, non pas contre des ennemis de chair et de sang, comme dit encore saint Paul aux Éphésiens, au chapitre 6, mais contre les puissances des ténèbres qui habitent les espaces célestes et qui veulent nous dominer. Parce que saint Paul ajoute aussitôt, « Et ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Ne vous modelez pas sur le monde présent. N'ayez pas peur d'être à contre-courant, même si c'est inconfortable, même si c'est très difficile. Mais le salut du genre humain est à ce prix. » Le salut du genre humain est à ce prix. Le relèvement spirituel de la France, du Liban et de toutes les nations est à ce prix. Le triomphe de l'Église par le cœur, le triomphe du cœur immaculé de Marie, annoncé par Notre-Dame à Fatima, est à ce prix. Offrez votre vie en sacrifice, agréable, vivant. Toutes vos activités, c'est encore dit un peu plus loin, dans le chapitre 4, sur les fidèles laïcs de cette constitution sur l'Église. C'est pourquoi les laïcs, numéro 34 en effet, de Lumen Gentium, reçoivent en vertu de leur consécration au Christ et de l'onction de l'Esprit-Saint la vocation admirable et les moyens qui permettent à l'Esprit de produire en eux des fruits toujours plus abondants. En effet, toutes leurs activités, leurs prières et leurs entreprises apostoliques, leur vie conjugale et familiale, leur labeur quotidien, leur détente d'esprit et de corps, s'ils sont vécus dans l'Esprit de Dieu, et même les épreuves de la vie, pourvu qu'elles soient patiemment supportées, tout cela devient offrande spirituelle agréable à Dieu par Jésus-Christ. Et dans la célébration eucharistique, ces offrandes rejoignent l'oblation du corps du Seigneur pour être offertes en toute piété au Père. C'est ainsi que la laïque consacre à Dieu le monde lui-même, rendant partout à Dieu, dans la sainteté de leur vie, un culte d'adoration. Vous comprenez que le sacerdoce commun des fidèles ne peut s'accomplir que à travers l'exercice du sacerdoce unique de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'accomplit précisément dans cette offrande qui seule est vraiment agréable à Dieu. Et Dieu nous fait l'honneur, la grâce, que nos propres offrandes spirituelles, une simple prière, un simple acte quotidien fait pour l'amour de Dieu, puisse rejoindre l'oblation du Christ, unique sur la croix, il y a 2000 ans, et obtenir la même efficacité de salut que l'oblation du Christ. Et comment pouvons-nous rejoindre l'oblation du Christ qui a eu lieu il y a 2000 ans ? À travers la Sainte Eucharistie, à travers le Saint Sacrifice de la Messe, à travers le ministère des prêtres, qui sont configurés pour rendre présent jusqu'à la fin des temps cette unique oblation du Christ afin que toutes les générations puissent y entrer par la foi et l'amour et ainsi sauver le monde. Sauver le monde. De même que je disais ce matin que Jésus, qui est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, pouvait tout à fait se passer de la Vierge Marie dans l'absolu. Et qui a voulu d'une volonté expresse, formelle, avoir besoin d'elle pour sauver l'humanité, il peut parfaitement se passer de nous. Et nous ne sommes pas parfaits comme la Vierge Marie. Nous ne sommes pas conçus immaculés. Nous sommes pécheurs. Et moi, le premier, comme dit saint Paul, je suis pécheur. Et pourtant, il veut avoir besoin de chacune et de chacun d'entre nous pour sauver les hommes et les femmes de notre génération qui passent nécessairement par l'oblation du Christ. Mais il se sert de nos petites offrandes spirituelles que nous apportons à chaque messe. Je dis ça aux enfants, sans doute qu'ils ne sont pas tout à fait capables de comprendre cela. Tant qu'ils n'ont pas reçu le don de l'Esprit-Saint qui fait d'eux des adultes dans la foi. Mais quand vous participez à la messe et que vous dites que vous vous ennuyez, vous êtes utile pour le salut de vos parents qui ne vont plus à la messe, pour le salut de vos amis qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, pour le salut des plus grands criminels dont le cœur est endurci et refuse de recevoir la grâce. Et nous comptons les jours où nous pouvons participer à l'Eucharistie. C'est là que s'accomplit pleinement votre sacerdoce commun. C'est là que vous devenez pleinement des adultes dans la foi. Et comme je le dis aux enfants, et je terminerai avec quelques petits témoignages magnifiques. J'aurais pu vous lire ça aussi, j'avais écrit, parce que ça m'a frappé dans les lectures du bréviaire ces derniers jours, de ces lettres magnifiques, magnifiques, si vous avez pas, si vous avez l'occasion de les lire, de les trouver, lisez-les, méditez-les, à genoux. Les lettres de saint Ignace d'Antioche, évêque de Syrie, d'Antioche en Syrie, à la fin du 1er siècle, qui meurt martyr à Rome en 110 après Jésus-Christ, au tout début du IIe siècle, qui enchaînait à Rome, enchaîné depuis Antioche, est emmené à Rome pour y subir le martyr qu'il désire de tout son cœur. Il dit aux Romains, mais surtout, ne m'empêchez pas de mourir, car enfin, je deviens un vrai disciple de Jésus-Christ. Moi qui suis le plus petit de tous les évêques. Et il adresse à tous les évêques, toutes les églises particulières qui ont tant d'importance. L'église n'est pas une espèce de fédération, comme une confédération d'États. L'église universelle est présente réellement dans chaque église particulière. Et les églises particulières sont unies dans la communion des évêques avec le successeur de Pierre. Toute l'église universelle est présente dans l'église de Bayonne, dans l'église de Bordeaux, dans l'église de La Rochelle, dans l'église que sais-je encore. Toute l'église universelle est rendue présente dans la mesure où cette église particulière est en communion avec l'église qui préside à la charité, comme dit saint Ignace d'Antioche, et qui est l'église de Rome. Et il dit des choses magnifiques parce que non seulement il dit quelque chose sur ce qui nous concerne tous, la grâce de notre baptême, dans le sens de ce que je vous disais, je vais vous le dire, mais il nous montre que l'Église, dès le premier siècle, immédiatement sortie de l'Évangile et de la première Église apostolique, est déjà structurée pour aujourd'hui, avec cette trilogie des évêques, des prêtres, des diacres, déjà présents dans ces lettres de saint Ignace d'Antioche, avec ce souci de la communion, de l'unité de l'Église, du peuple de Dieu à l'évêque et son presbytérium. C'est magnifique. Ce n'est pas des choses d'aujourd'hui, pas des choses inventées à travers les âges. Ça sort immédiatement de l'Évangile. C'est magnifique. Et alors voilà ce qu'il dit. « Vous ne pouvez rien me procurer de plus beau. » Il s'adresse à l'Église de Rome. « Vous ne pouvez rien me procurer de plus beau que d'être offert à Dieu en sacrifice, tandis que l'autel est encore prêt. » Je suis le froment de Dieu et je serai moulu par la dent des bêtes pour qu'on reconnaisse en moi le pain très pur du Christ. Ne parlez pas de Jésus-Christ alors que vous désirez le monde. Ne parlez pas de Jésus-Christ alors que vous désirez le monde. Voyez, comme je le dis aux enfants, puis je vous le dis à vous aussi, parce que nous sommes tous des enfants de Dieu, il n'y a pas besoin d'être une grande personne pour être un adulte dans la foi. La preuve, c'est que l'Église béatifie et canonise des enfants et des jeunes qui, dans la puissance de l'Esprit-Saint qu'ils ont reçu par les sacrements de l'initiation chrétienne, sont capables de vivre en plénitude ce que je viens de vous dire, qui nous paraît tellement élevé. Je pense, bien sûr, à des enfants comme Jacinthe, et François, ces deux petits voyants de Fatima. Lucie qui voit la Vierge pour la première fois, qui ne sait pas que c'est la Vierge Marie, qui voit cette belle dame revêtue de soleil le 13 mai 1917, et qui lui dit « D'où venez-vous, madame ?»« Du ciel ?»« Du ciel ? Et est-ce que moi j'irai au ciel aussi ?»« Oui, tu iras au ciel. » »« Et Jacinthe ?» Oui, elle ira au ciel. Et François, oui, mais il faut qu'il dise mieux son chapelet. Et qui demande à ces deux enfants qui ont été préparés, c'est pas anodin ça aussi, préparés à cette rencontre avec la Vierge Marie qui a un message pour l'Église et pour le monde, dont l'actualité aujourd'hui ne nous échappe pas, ont été préparés quelques mois avant par une rencontre avec l'ange du Portugal, Saint-Michel-Archange, très certainement, qui les a préparés à cette rencontre à travers une participation à l'Eucharistie. L'adoration. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime et je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Allez, on va le dire ensemble. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Et je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Et cette belle prière aussi à Jésus qui est présent réellement dans tout l'Eucharistie, dans tous les tabernacles du monde, qui mérite notre adoration. Et puis cette communion miraculeuse où l'ange apparaît avec cette hostie trempé de sang au-dessus du calice, qui fait communier les enfants à l'hostie, qui fait boire le calice, mystérieusement, miraculeusement, à Lucie, qui elle restera plus longtemps à vivre son calvaire sur la terre, sa participation au sacrifice du Christ. Et ces deux enfants, qu'est-ce que leur demande la Vierge Marie ? Voulez-vous bien offrir des petits sacrifices ? Des petits sacrifices pour la conversion des pécheurs ? Oh oui ! Emportés par la grippe espagnole, à 8 et 10 ans, dans des souffrances difficiles, grippe espagnole bien plus redoutable que la Covid-19, bien plus redoutable, n'est-ce pas ? Mais avec la joie au cœur, la certitude d'aller au ciel et offrant leur souffrance et leur mort pour la conversion des pécheurs, assumant pleinement dans la grâce de leur confirmation qu'ils avaient reçue à 8 et 10 ans, leur sacerdoce, leur participation à l'unique sacerdoce du Christ. Et c'est le pape Benoît XVI, je crois, qui les a béatifiés. Et c'est le pape François qui les a canonisés, adultes dans la foi. Je pense encore à un bienheureux dont on a beaucoup parlé ces temps derniers, et que vous connaissez bien aussi, Carlo Acutis, ce jeune Italien de Milan, qui est mort à 15 ans en 2006, il aurait 30 ans cette année, d'une leucémie foudroyante, la forme la plus douloureuse de la leucémie en 15 jours, et qui dit à ses parents qui sont là à côté de lui, dans sa chambre d'hôpital, en esquissant un sourire malgré la douleur, « J'offre mes souffrances pour le pape et pour l'Église et pour aller tout droit au ciel sans passer par le purgatoire. » Quand vous avez des catéchistes, parfois des prêtres, qui n'enseignent même plus le purgatoire. « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» Mais tout ça, c'est bon. Tu ne vas pas parler de l'enfer pour traumatiser les enfants. C'est vraiment des images d'épinal pour faire peur aux gens. Sainte Vierge à Fatima a donné la vision de l'enfer à des enfants. Elle manque un peu de pédagogie quand même. Hein. Elle manque un peu de pédagogie. Et quel était son secret à ce jeune Carlo qui était vivant, jovial, qui avait beaucoup d'amis parce qu'il était agréable, qui jouait au foot, passionné d'Internet et qui s'est servi d'Internet pour faire connaître Jésus au monde à travers cette exposition de tous les miracles eucharistiques de toute l'histoire de l'Église qu'il a montée et qui fait encore le tour du monde aujourd'hui, qui s'occupait de tous les SDF de son quartier à tel point que le jour de son enterrement, tous les SDF étaient là dans l'Église pour lui rendre hommage. L'Eucharistie. Quand vous pensez qu'il était né dans une famille qui n'était pas pratiquante, sa grand-mère, quand elle l'avait, l'emmenait un peu à la messe le dimanche. C'est comme ça qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui se passait à l'église. Quand il a perdu son grand-père, il prend son petit manteau et il dit à sa grand-mère, on va à l'église. En italien. Hein. Mais elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Carlo? On y est allé dimanche, t'es emmené dimanche déjà, c'est pas la peine d'y aller maintenant. Si, on va dire au revoir à nonno, à grand-père. Et le voilà parti. À partir de cet âge-là, il prend la main de sa maman pour aller à la messe tous les jours. Un adolescent de notre temps, tous les jours, il allait à la messe. Et sa maman confesse que jusque-là, elle était allée à l'église 3 fois dans sa vie. Et ça l'a converti. Et ça lui a donné cette capacité d'offrir sa vie pour le pape, pour l'église, et pour aller tout droit au ciel sans passer par le purgatoire. Lui qui disait, l'Eucharistie, c'est mon autoroute pour le ciel. Quand vous vous exposez au soleil, vous bronzez. Quand vous vous exposez au Saint-Sacrement, exposé sur l'autel, dans ce soleil qu'est l'ostensoir, vous devenez des saints. Et il est devenu un saint à 15 ans, offrant sa souffrance pour le salut du genre humain. Et enfin, je vous donne encore un autre exemple magnifique, qui est moins connu celui-là. C'est un jeune qui s'appelle David Buggi. Vous avez entendu parler ? Un jeune Italien. On dirait qu'il n'y a qu'en Italie qu'il y a des saints, de cet âge-là. Il est mort en 2017, lui. Ça fait 4 ans. Il avait 17 ans. début 2017, il est né à la fin de l'année 1999. Lui, il était d'une famille catholique du chemin néo-catéchuménal. Donc il avait une communauté. Bon. Et donc il avait déjà une expérience de la parole de Dieu à plusieurs moments même. La parole de Dieu avait résonné dans sa vie et il s'était accordé que Dieu était vivant parce qu'il lui donnait des réponses qui étaient quand même, qui pouvaient venir que de Dieu. Et alors que il aurait dû aller dans un camp auquel il n'est pas allé parce que le prêtre qui l'a convoqué dit « c'est pas bien pour toi, va pas à ce camp-là », douleur. Alors toute la famille prie avant qu'il ait des examens pour que ce ne soit pas grave. Résultat des examens, tumeur. Bon. Alors il fait prier tout le monde, toute la famille, parce que vraiment il avait la foi. Hein. Toute la famille, toute la communauté, toute la paroisse, pour que ce ne soit pas une tumeur cancéreuse, maligne. Examen, tumeur maligne. Alors tout le monde prie pour que il n'y ait pas de métastase. Nouveaux examens, métastase. Alors là, il dit « Seigneur, t'es pas sympa. Toi qui m'as donné la preuve que tu existais, tu m'abandonnes. » Et il s'est révolté, et il s'est rebellé. Et le prêtre qui l'accompagnait lui dit « Mais non, David, ne te rebelle pas. La seule chose que tu peux faire de mieux, c'est de confier ta maladie et de l'offrir au Seigneur. Offre-la au Seigneur, ta maladie. Non, je peux pas, c'est pas possible. » Ben, demande la grâce de l'offrir au Seigneur. Et alors qu'il se trouve dans une nuit d'hôpital, profondément angoissé, en chimiothérapie, il décide de prendre son chapelet. Il prend son chapelet. Il donne lui-même ce témoignage. Tapez David Bougy sur Google et vous trouverez les vidéos. Cette vidéo dans laquelle lui-même raconte cette histoire quelques semaines avant sa mort. Et c'est le prêtre qui termine l'histoire sur la vidéo. Et il dit « Je prends mon chapelet et pour la première fois, je le dis d'une manière qui n'est pas ordinaire. Et au fur et à mesure, je suis envahi par une émotion que je n'ai jamais expérimentée jusque-là. Tellement grande que plus je prie, plus je suis heureux. Pas encore capable de confier ma maladie, mais tellement heureux. Et puis tout à coup, alors que je ne voulais pas confier ma maladie, je me sens pressé de l'offrir au Seigneur. Et à partir de ce moment-là, j'ai communié à l'Eucharistie tous les jours. C'est la plus belle année de ma vie, dit-il. Et à la fin de sa vie, quand il est à l'hôpital, pas loin de mourir, où il est sous oxygène, il ne peut plus beaucoup parler. Le prêtre l'accompagne tous les jours de sa communauté et il dit on va faire un deal. On va faire la liste de tous les jeunes de la paroisse qui ont besoin de se convertir. Donc il fait toute une liste que le prêtre écrit. Ils sont dans la drogue, dans le sexe, ils ont quitté la paroisse, ils sont plus chrétiens, mais qui font partie de son environnement. Hein. Et tu vas leur demander de venir me voir dans la chambre. Ils vont tous venir. Moi, je ne pourrais pas leur parler. Moi, j'offrirai mes souffrances pour leur conversion. Et toi, tu leur parleras, dit-il au prêtre. Et le prêtre à chacun, puisqu'il les connaît tous, il sait quoi leur dire. Au nom du Seigneur et au nom de David. Et David, il offre. Une fois que le dernier de la liste est sorti de la chambre, il a rendu son âme à Dieu. C'était le jour de la fête Dieu. C'était le jour de la fête du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Seigneur. Son procès de béatification n'est pas encore ouvert parce que ça fait seulement 4 ans qu'il est mort. Il faut 5 ans. Mais je suis sûr que ce garçon, il est entré dans la vie adulte, dans la foi. Il a su offrir sa vie tout entière au Seigneur grâce certainement à sa vie eucharistique et au sacrement de baptême et de confirmation qu'il avait reçu. Demandons à tous ces témoins, ces jeunes témoins d'aujourd'hui, la grâce, nous aussi, de devenir, là où nous sommes, qui que nous soyons, des adultes dans la foi, des âmes offertes, des victimes d'amour, unies au cœur de Jésus et au cœur immaculé et douloureux de Marie, pour le relèvement de la France, du Liban, de toutes les nations, et le triomphe de l'Église. Amen.
C'était l'intervention de notre évêque, Mgr Marc Caillé, le vendredi 11 juin, la solennité du Sacré-Cœur en la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne, à l'occasion de la récollection de l'Alliance des Cœurs Unis.